les Water qui possèdent les marques Perrier, Épars ou encore Contrex.
Merci beaucoup Cécile Mérieux. Cécile, on vous retrouve à 8h pour le prochain rappel des titres. Et Louis Dauphret, grand témoin ce matin, et Robert Redeker, philosophe, il publie l'éloge spirituel de l'attention, c'est chez Arteje.
Vous avez vu ces mots étonnants que le cardinal australien Nicholas Bitchcock a confiés le 9 mai au lendemain de l'élection du pape Léon XIV. Le conclave, a-t-il dit, a été le meilleur moment de ma vie. Pourquoi? Voici sa réponse. Essayez simplement d'éteindre votre portable pendant au moins 24 heures pour voir. Le mien a été éteint pendant 2 jours et demi. C'est ce qu'a dit l'évêque de 45 ans qui a été fait cardinal l'an dernier par le pape François. Nos vies seraient-elles phagocytées par le démon des technologies, ce mot que le nouveau pape américain a mis en tête de liste. Des certitudes qui nous ruinent quand elles prennent toute la place. Il y a un enjeu métaphysique à parler de l'attention, pas juste de faire attention de manière négative, mais de se recèler comme expérience par laquelle notre âme se manifeste à notre conscience. Le chaos vient de l'agitation. Blaise Pascal nous le dit quand il affirme que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Alors on a de la chance puisque Robert Redeker, lui, alors, on n'est pas agité, mais il est présent dans notre studio. Bonjour Robert Redeker.
Bonjour, et je ne suis pas resté dans une chambre, je suis venu jusqu'ici. Bonjour à tous.
Ça faisait un certain temps qu'on ne s'était pas vu d'ailleurs. Vous vivez dans l'Ariège, me semble-t-il, non? C'est ça?
À la limite de l'Ariège et de Haute-Garonne, oui, dans le Lauragais.
Bon, c'est magnifique comme région en plus. Robert Redeker, vous êtes des nôtres, donc pour nous parler de cet éloge de l'attention, on va aller dans quelques instants avec Joseph Touvenel à Bucarest pour reprendre un petit peu le flot de l'actualité, puis vous faire commenter un certain nombre de sujets. On parle aussi de Boualem Sansal. Je voulais simplement avoir votre première réflexion sur cette idée, l'attention, on est capté de tous les côtés aujourd'hui. Tenez, autour de nous, il y a une dizaine d'écrans par exemple. Vous êtes allergique à cette évolution-là?
Nous sommes dans une société qui est en train de détruire l'attention. Enfin, c'est un phénomène paradoxal, parce que d'une part, il s'agit d'attirer l'attention par les écrans, mais ces mêmes écrans détruisent l'attention, provoquent une sorte d'extase dans laquelle on se vide. Comparer par exemple la lecture de la même œuvre sur écran, alors je ne sais pas, on peut prendre Le Noir de Stendhal, sa lecture sur écran et sa lecture dans un livre comme vous en avez un là, sur papier. La différence est immense et je crois qu'elle comporte un enjeu anthropologique. Lorsque vous lisez ce texte sur écran, eh bien c'est l'écran qui vous saute aux yeux. Qui vous avale. C'est une source de lumière, une lampe, et donc vous écrasez contre lui comme les insectes, les soirs d'été viennent s'écraser contre un néon. Au contraire, lorsque vous avez le livre sur les genoux, que vous le feuilletez, vous allez en avant, en arrière, la lumière ne vient pas du livre. C'est-à-dire, le livre n'est pas une lampe, elle vient de vous. La lumière vient de vos yeux. Donc la simple différence entre lire sur écran et lire un livre de papier, c'est une différence qui a des enjeux, vous avez parlé de métaphysique tout à l'heure, mais des enjeux anthropologiques, c'est-à-dire des enjeux quant à ce que c'est que l'homme. Vous voyez,
le livre autorise la distance critique.
Il crée la distance.
C'est capital.
Voilà, il crée la distance, ce qui fait que c'est le lecteur qui éclaire le livre, alors que l'écran est au contraire quelque chose qui détruit la distance critique. Donc, il attire votre attention, mais en même temps, il détruit la condition même de l'attention. C'est pourquoi, il y a déjà fort longtemps, j'ai écrit un livre qui s'appelait Le Déshumain, qui était une critique de la présence des écrans à l'école.
La chose n'a fait que s'aggraver.
Oui, je crois que nous en avions parlé.
Bien sûr.
On parlait ici avec vous à ce
nous
micro.
Nous avions parlé aussi du sport sur lequel vous criez également.
Oui. La chose n'a fait que...
Ces formes d'aliénation moderne.
Oui, la chose n'a fait que s'aggraver. Mais ce ne sont pas des choses que l'on peut retenir. Mais ce sont des choses auxquelles on peut répondre, comme l'archevêque dont vous parliez tout à l'heure, auquel on peut répondre par des exercices spirituels de mise à distance. Si vous mettez à distance pendant 2 jours et demi, bon, il ne l'a pas fait volontairement, il a été obligé, c'était le conclave. Mais c'est un signe, enfin c'est peut-être un exercice qui lui a été demandé par le Saint-Esprit. Mais si vous mettez à distance pendant 2 jours et demi les écrans, le téléphone portable et tout, vous... redevenez ce que vous avez cessé d'être, c'est-à-dire vous redevenez plus humain.
C'est ça, mais aujourd'hui ça demande d'aller vivre dans le Lauragais ou bien dans une Thébaïde quelque part, Robert Redeker. C'est ça la question aujourd'hui, c'est très difficile et même au fin fond de la Terre, on va vous chercher pour que vous soyez captif justement de cette technologie.
Cet exercice peut être fait. Vous savez, chez Rousseau, il y a la coupure dans l'Émile de Rousseau, l'homme fait pour vivre dans les villes, qui n'est pas vraiment un homme, et l'homme fait pour vivre à la campagne, qui sont Rousseau vraiment un homme. Mais en fait, tout le monde vit désormais dans les villes. Les campagnes éloignées, c'est la ville du fait de la numérisation, de la digitalisation de toute la planète. Vous pouvez vous vivez dans un coin apparemment éloigné dans les Pyrénées ou en Cappadoce. Eh bien non, vous êtes pris dans le réseau mondial. Donc tout le monde est dans la ville, c'est toute la planète qui est une ville.
Et pourtant, on est relié, justement, relié religion, ça veut dire relié aussi Robert Redeker. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on estime que c'est un progrès de relier, de connecter les gens les uns aux autres, systématiquement. Et puis après, on va se connecter à Bucarest.
Alors je ne doute pas de l'utilité de pareille chose, de même que de l'utilité de l'intelligence artificielle pour la médecine. Personne ne va cracher là-dessus et repousser cela. Cependant, relié, je ne suis pas... Je crois qu'il faut aller plus loin. On a à la fois la réduction de chacun à une sorte d'atome, et le lien entre les personnes devient désormais un lien digital. C'est-à-dire que vous avez des amis, mais ces amis, au fond, ne sont plus que des ombres digitales, et les rapports, alors, entre guillemets, réels, disons les rapports concrets, disparaissent peu à peu. C'est ainsi que l'autre remplace le prochain. L'autre, c'est un...
Une figure, c'est un fantôme.
Oui, c'est une figure, un fantôme, un concept. C'est-à-dire que le prochain, c'est le concret qui disparaît. Et vous avez remarqué, sans doute comme moi, que nous vivons dans une société où l'on ne parle plus du prochain. Le mot prochain a disparu à la fois du vocabulaire courant, mais aussi du vocabulaire politique, juridique, ainsi de suite. On parle de l'autre, mais l'autre, c'est vide.
On mesure l'enjeu pour l'Église en particulier de cette évolution des technologies, et si aujourd'hui on en parle, c'est parce que aussi le pape Léon XIV, comme je le disais tout à l'heure, en a fait une priorité parmi les certitudes dont il estime que si elles remplacent l'essentiel, eh bien le monde va à des drames, c'est le terme qu'il a même utilisé. On va faire un instant une escale à Bucarest avec Joseph Touvenel, notre chroniqueur régulier, ancien vice-président de l'ICFTC. Bonjour Joseph.
Oui, bonjour Louis.
Merci d'avoir accepté ce rendez-vous matinal au lendemain de l'élection que tout le monde attendait avec la remontada de Nicu Jordan, le maire de Bucarest, qui l'a donc emporté. Dites-nous un petit peu quelle est l'atmosphère là-bas dans la capitale roumaine.
Écoutez, c'est relativement calme. Alors il y a évidemment sur les réseaux sociaux, dans les conversations, élections truquées, il y a eu effectivement un certain nombre de problèmes, notamment en dehors de la Roumanie, la communauté roumaine installée en Europe a eu du mal à voter. Mais ce qui est intéressant, c'est les commentaires qui viennent d'en dehors de la Roumanie. On nous décrit une espèce de grande victoire pour von der Leyen. C'est pas ça. La réalité, c'est que il y a eu un grand coup de balai qui a été donné. Il y avait le candidat Georges Simion, dit d'extrême droite, mais celui qui l'emporte, c'est un candidat indépendant. C'est-à-dire que les partis traditionnels, les sociaux-démocrates, les démocrates sociaux, qui étaient au pouvoir depuis, en gros, la chute du communisme, ont été balayés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme le dit le nouveau président de la République roumaine, la communauté de Roumains, désireuse d'un profond changement, reconstruisons la Roumanie. C'est-à-dire que c'est un grand coup de balai. Et c'est pas du tout une opposition... entre les pro-européens et les anti-européens, à la limite, tous les Roumains sont pro-européens, mais pas pro-bruxellois. Pro-européens, pourquoi? Parce que, pas très loin, rôde l'ours russe. Et l'ours russe, dans l'histoire, ce n'est pas que des bons souvenirs pour les Roumains, c'est notamment l'Union soviétique et la dictature communiste. Et ça, c'est un rejet très très fort du peuple roumain. Après, il y a deux axes. Il y a eu une grande crainte... d'un certain nombre de Roumains, c'est que les financements de l'Europe soit coupée, parce que nous savons que nous sommes dans une Europe démocratique, mais si on vote mal, on nous coupe les financements, ce qui choque même des gens. Moi, j'ai discuté avec un certain nombre de gens, notamment des leaders syndicaux, encore hier soir, on suivait le résultat ensemble à la télévision roumaine, qui ne sont pas pro-bruxellois, mais qui sont pro-européens, parce qu'ils pensent que ça fait avancer les choses, notamment le droit en Roumanie, mais il ne faut pas confondre l'acceptation des règles bruxelloises et le désir de rester en Europe, dans l'Europe qui est l'Europe protectrice, celle des peuples et des nations. Les Roumains sont très attachés à leur nation et à leur peuple. Ce n'est pas du tout le délire bruxellois.
Joseph Tounel, un mot, parce que vous allez souvent en Roumanie, hein, pour des raisons syndicales, hein, je précise. Hein, vous y étiez justement dans ce cadre-là, précisément. Comment vous voyez l'évolution de ce pays maintenant que Nico Jordan l'a emporté? Est-ce qu'il y a des éléments qui se dessinent, en particulier par rapport au conflit ukrainien, en un mot?
Le problème là-bas, ce n'est pas le conflit ukrainien, parce que les Roumains, l'ours russe, j'en parlais. Donc, ils vont soutenir l'Ukraine tout en sachant que c'est un pays très, très, très corrompu. Mais que c'est, il faut pas laisser les Russes avancer, mais ils en ont pas vraiment la crainte. Non, le gros sujet en Roumanie, s'il y a eu du dégagisme, puisque les deux candidats, les deux finalistes, sont des candidats qui n'étaient pas dans le système, c'est la lutte contre la corruption. Ça c'est vraiment le vrai sujet en Roumanie pour le développement de la Roumanie. La lutte contre la corruption, je ferai qu'un exemple. Il y a un ancien ministre qui avait été arrêté pour corruption. Il a continué à être dans sa superbe résidence avec hélicoptère parce qu'il avait mis toute sa fortune sur le nom de sa femme. Et puis, de toute façon, il n'a jamais pu être jugé parce qu'au moment du procès, tous les documents avaient disparu. Ça, c'est vraiment le cœur du sujet en Roumanie, la lutte contre la corruption. Et en même temps, la Roumanie est un pays qui est chrétien, où les églises sont remplies. J'étais hier à la messe dans l'église catholique, elle était bourrée. Mais vous savez que la Roumanie, les catholiques sont minoritaires, hein, les orthodoxes majoritaires, et en face de moi, j'ai la magnifique nouvelle cathédrale orthodoxe qui est en train de se construire. C'est une grande fierté des Roumains, puisque les Roumains veulent garder à la fois leur foi, leur espérance et j'espère leur charité.
Merci Joseph Tounel, l'ancien vice-président de la CFTC, chroniqueur régulier sur notre antenne. À bientôt Joseph. Dans notre débat du jour en particulier, bon séjour à Bucarest, Robert Redeker. Précisément, je voyais réagir au moment où Joseph Tounel reparlait de cette idée que la foi était vivace en Roumanie.
Oui, alors je connais la Roumanie, parce que tout simplement ma fille a épousé un Roumain. Et j'aime beaucoup ce pays pour sa beauté. La beauté de ses campagnes, de ses villes et le caractère accueillant et sympathique des Roumains. Alors la chose a changé en France puisqu'il y a quand même une résurrection de la foi chrétienne dans notre pays. Mais il est vrai que quand je suis allé en Roumanie la première fois, ça m'a... La présence des gens dans les églises orthodoxes et catholiques, où ils sont pourtant très minoritaires, c'est quelque chose qui m'a frappé. L'ardeur religieuse m'a frappé en Roumanie. De même que m'a frappé aussi l'affection pour la France. Enfin, la France et la Roumanie, c'est un très ancien couple. Il y a eu d'ailleurs beaucoup d'intellectuels roumains qui se sont installés à Paris. La Roumanie, je crois que le français est la langue la plus enseignée en Roumanie à l'école. Voilà.
Donc, il y a des liens très très forts.
Oui, la Roumanie est notre petite sœur. Nous sommes leur grand frère. Ceci dit, sans paternalisme.
Il y a un autre lien un petit peu plus délicat, ce sont ceux que nous avons avec l'Algérie, Robert Redeker. Il se trouve qu'il y a un intellectuel algérien aujourd'hui en prison qui demeure en prison, c'est Boualem Sansal, au sort duquel vous êtes sensible.
Oui, je le connais. Boualem Sansal est aujourd'hui à la fois notre Solzhenitsyn, c'est aussi le Voltaire algérien. Ses écrits sont très, très virulents. Par rapport à la fois par rapport à l'islam et au régime algérien. La situation dans laquelle il se trouve est scandaleuse. C'est un citoyen français. Alors, je voudrais rappeler qu'il y a une trentaine d'années, au moment de la dictature chilienne, la gauche française massivement a soutenu Victor Jara, avait raison, a soutenu Pablo Neruda et d'autres. Et jusqu'au chanteur grand public, je me souviens, Jean Ferrat, ou bien Bernard Lavilliers, qui est toujours, toujours en vie, dans une très belle chanson, La Samba. Alors, j'ai envie de leur lancer un appel. J'ai envie de lancer un appel à Bernard Lavilliers. Bernard, toi qui as si bien chanté avec ton immense talent, soutenu Victor Jara, pourquoi ne le fais-tu pas aujourd'hui? Pourquoi ne fais-tu pas aujourd'hui une chanson pour Boualem Sansal? Peut-être Boualem n'a pas tout à fait les mêmes idées que toi. Peut-être Boualem n'est pas du même bord que toi. Mais tous les deux, vous défendez l'universel. Non, mais tous les deux, vous défendez la liberté de penser, la liberté des artistes. Alors, Bernard, mets-toi-y, remonte sur scène, enregistre un CD pour sauver Boualem Sansal.
Vous pensez qu'il vous écoutera,
non.
Robert Redeker?
Peut-être.
Parce que vous pensez qu'il y a un poids de mesure sur certaines figures ou le temps simplement a passé parce que le Chili a pu représenter une sorte de référence intellectuelle et l'Algérie ne l'est plus aujourd'hui forcément.
Il y a effectivement deux poids, deux mesures. Il y a les bons intellectuels persécutés et les mauvais intellectuels persécutés. Bon, on ne défend pas les mauvais, entre guillemets, bien sûr, c'est un jugement qui est porté par d'autres, pas par moi. Et alors là, il faut être voltairien. Hein. Quelles que soient vos idées, je défendrai votre droit, je défendrai concrètement votre droit à les écrire, ou bien on parlait de faire de la musique, ou aller chanter, ou ce que vous voulez. D'où mon appel à Bernard Lavilliers.
Voilà, l'appel est bien passé. Éloge spirituel de l'attention, Robert Redeker aux éditions Arthège. Je voulais juste simplement une dernière question avant de se quitter, Robert Redeker. Je voulais savoir quelles sont les suites que l'on peut espérer à ce type de réflexion, en particulier dans le cadre de l'enseignement, de l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez des sollicitations de ce point de vue, vous qui avez beaucoup enseigné?
J'espère que cela viendra.
Pour l'instant, c'est pas le cas.
Non.
Merci d'avoir été des nôtres ce matin.
Merci.
Je rappelle que vous êtes philosophe. À bientôt.
Et merci à vous, Louis Dauphren. Louis, on vous retrouve à partir de 9h10 dans le débat du jour, comme chaque matin, avec les réactions des auditeurs par mail à direct@rcf.fr. Dans une poignée de secondes, la prière du matin.